l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Maneleo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 18 novembre 2024. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Exactement 6 heures passées de 15 minutes à Bukavu, même heure, dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, les projets de révision de la Constitution n'ont rien à voir avec le troisième mandat, confirme le chef de l'État dans un meeting tenu à Lubumbashi où il séjourne. Félix Antoine Tshisekedi précise que personne ne va l'interdire comme garant de la nation à modifier la Constitution, vous l'entendrez dès le début de cette édition du journal. Et pendant ces temps du côté de l'opposition, nous ne pouvons pas l'entendre de cette oreille, le président Tshisekedi veut modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir, précise le président d'Envol d'Eli Sesanga. Et en sport éliminatoire Cannes-Maroc 2025, les Léopards enregistrent leur première défaite de la compétition face à la Guinée avant d'affronter l'Éthiopie pour clôturer ces éliminatoires alors que la Guinée en déplacement jouera la finale du groupe à Dar es Salaam face à la Tanzanie. Voilà tout pour les minutes de l'actualité ce matin. Merci de nous faire confiance. Alain Zahar assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Les projets de changement de la Constitution ne visent nullement à briguer un troisième mandat, a déclaré samedi le chef de l'État congolais dans un meeting à Lubumbashi en province du Haut-Katanga où il est arrivé dans la soirée. Il a réitéré ses propos tenus à Kisangani au sujet de la Constitution de notre pays qui, selon lui, n'a rien à voir avec un troisième mandat. Tshisekedi confirme que l'année prochaine, il mettra en place une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. On écoute le président de la République.
C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela.
Évoquant la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est, le chef de l'État a dénoncé la complicité de certains fils du pays. Soyez très vigilants parce que l'une des provinces visées par ses ennemis du peuple congolais est le Haut-Katanga, a-t-il indiqué. Et le président du parti politique Envol, Déli Sesanga, a accusé dimanche 17 novembre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de vouloir changer la constitution pour son bénéfice personnel. Il l'a dit sur son compte X au lendemain de l'affirmation du président de la République des réviser ou d'échanger la constitution lors de son discours tenu à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Déli Sesanga a également averti que le chef de l'État, avec son intention de réviser la loi mère du pays, fera sans doute face aux Congolais patriotes. Les menaces, les mensonges ne feront nullement reculer les peuples congolais et vous aurez au devant de vous tous les Congolais qui veulent à jamais que le Congo devienne une république et un État au service d'intérêt général. Cet opposant a balayé du revers de la main ce qu'il qualifie de l'alibi que le président de la République cherche dans l'article 217 de la Constitution en vue de réaliser son projet. Pour le président du parti Envol, les chefs de l'État n'ont nullement les droits de limiter les débats sur les projets funestes et de changer la Constitution de notre pays en menaçant de poursuivre les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation. Déli Sesanga a par ailleurs regretté que Félix Tshisekedi ait usé de la manipulation pour revoir la Constitution. Et le gouverneur du Sud qui voulait, professeur Jean-Jacques Porosisadi, qui annonce la mise sur pied d'une commission provinciale pour le suivi des recommandations issues des États généraux de la justice. Il l'a dit lors de la cérémonie de clôture des assises des États généraux de la justice tenue le samedi dernier à Kinshasa, Omer Mudekereza.
Placé sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Ces assises ont duré près de 10 jours et ont réuni plusieurs acteurs du secteur judiciaire, de la magistrature, des experts nationaux et internationaux, des activistes des droits humains et des universitaires venus de différents horizons à en croire la cellule de communication du gouverneur de province. Les participants à ces assises ont eu le temps de scruter l'état du système judiciaire et identifier les défis qui handicapent sa bonne marche. À cette occasion, ils ont formulé plusieurs recommandations, dont la transformation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. Une structure qui sera composée des représentants supplémentaires du système judiciaire, incluant même les acteurs de la société civile. À en croire le ministre d'État et ministre de la Justice Constant Mutamba, l'objectif visé est de renforcer une représentativité, assurer la transparence et la neutralité de cette institution dans le but d'améliorer le fonctionnement du système judiciaire du pays. Prenons part à ces assises. Le gouverneur du site Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, promet que toutes les recommandations issues de ces assises devront être mise en application dans sa province à travers une commission spéciale. Signalons que cette activité clôturée samedi dernier a été présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle s'est tenue dans la salle des congrès du Palais du Peuple sous le label du ministère national de la Justice et Garde des Sceaux.
Et le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahatiloukou Ebone, ni de loin ni de près associé à l'entreprise Technobuild, qui est citée parmi les entreprises impliquées dans l'exploitation des minerais au sud Kivu. C'est ce qu'indique le député national Landry Tshizungu, qui est également président fédéral de l'AFDC au sud Kivu en réaction aux accusations impliquant Modeste Bahatiloukou Ebone dans les activités minières au sud Kivu. Landry Tshizungu précise que l'autorité morale de l'AFDC n'a pas de part dans l'entreprise Technobuild, qui par ailleurs est une société de services et non une entreprise minière comme d'aucuns l'indiquent. Le professeur Landry Tshizungu dans cet élément.
Je dois dire que ceux-là qui parlent de l'entreprise Technobuild en rien et pour rien, Modeste Bahatiloukou Ebone n'est pas ou n'a pas une part sociale dans cette entreprise-là. Et d'ailleurs, il s'agit d'une entreprise, société de services. Comment est-ce qu'une société de services, vous allez la confondre avec une société qui fait l'exploitation? Ça signifie que vous risquerez de dire que ceux-là qui font, par exemple, la sous-traitance chez Bandro, et ceux-là qui sont dans les services, vous allez dire qu'ils sont dans l'exploitation des minerais. Non. Il faudrait vraiment qu'on soit attentif et qu'on soit conscient de ce qu'on dit. Mais au-delà de tout ça, nous devons savoir que Son Excellence Modeste Bahatiloukou Ebone, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur chevronné. Mais je dois vous dire qui ne sera jamais dans l'économie sauvage. Ça signifie que s'il doit entrer dans l'exploitation minière, il ne peut y entrer qu'en tenant compte des textes du pays.
Le professeur Landry Tshizungu au micro des Radio Maïndele clôture à Goma hier dimanche 17 novembre 2024 de la 10e édition du festival Amani Souzi, note de satisfaction des festivaliers sauvés de justesse après l'annulation et la levée de la mesure d'annulation du maire de Goma. Le festival Amani s'est enfin tenu dans 2 jours sur 3 jours prévus. Durant ces 2 jours d'activité, plusieurs artistes internationaux, nationaux et locaux ont presté devant une foule les patronnées et amoureuses de la bonne musique. C'est l'artiste musicien Péfère qui a tiré les derniers rideaux de cette 10e édition avec une prestation hors pair. Les festivaliers se disent satisfaits de cette édition qui a affiché une note réussite malgré les combats qui l'ont précédé. Exactement 6 heures passées des 22 minutes à Bukavu et dans la ville de Goma où nous sommes suivis. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndeleo dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Maïndeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeant de chapitre à présent, un incident meurtrier s'est produit à Chikoma, groupement Bougaroul, en territoire d'Idju, au sud Kivu, la matinée de samedi 16 novembre 2024, où 3 personnes ont perdu la vie sur le lac Kivu. Amos Bouye, président de la cité civile du groupement Pen Équilibre, cette information à Radio Maïndeleo, précise que ces 2 mamans vendeurs des frettes produits de pêche sont noyées au lac Kivu alors qu'elles étaient dans une petite pirogue à la recherche de leurs articles de commerce. Joint à ce sujet, l'administrateur du territoire d'Idju, Mustapha Mamboleo, fait savoir que les corps d'une femme et de l'enfant ont été repêchés des eaux et inhumés par des habitants du même point. Les recherches se poursuivent pour tenter de récupérer les 2 autres corps des mamans, indique notre source. Écoutons à ce sujet Amos Bouye de la cité civile d'Idju qui en parle au micro de Richelet Biamana, notre correspondant à Idju.
Nous demandons aux services et habilités, la police lacustre, hein, les autorités ayant les transports dans leurs attributions, de vouloir réglementer, que tous les services mettent aussi des rigueurs. Est-ce que ce n'est pas beau quand on voit les mamans qui ne savent pas même ménager prendre des pirogues à la recherche des fretés? Il a fallu vraiment que les autorités prennent conscience et cherchent comment limiter les cas pareils. Parce que ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas comprendre comment celui qui est allé à la recherche de la vie peut encore perdre la vie. Et que les pêcheurs aussi cherchent comment aussi accoster bien avant et démailler leur filet au profit de la population.
Et les armateurs et propriétaires des ports privés dans les secteurs des transports lacustres sollicitent la convocation des états généraux des voies navigables à qui regrouperont l'administration publique, les armateurs et les auxiliaires des transports portables sur tous les maux qui handicapent les secteurs des transports en RDC. Ils ont formulé cette recommandation dans une note technique adressée au vice-premier ministre, ministre des transports et voies de communication et des enclavements dont une copie a été consultée par la rédaction des radios Mindelo le week-end dernier, Hélène Boudiriri.
Dans ces documents, ces armateurs plaident pour la suppression des phénomènes des passagers clandestins, détenteurs des faits des routes militaires ou policières. Dans cette même correspondance, ces armateurs et propriétaires des ports privés plaident pour le respect de l'autorité de l'État par l'application stricte des dispositions du décret fixant à 4 les services habilités à fonctionner dans les postes frontaliers. Ces derniers indiquent que la taxe sur passagers et la taxe de navigation devraient être aussi supprimées. Ils indiquent que le transport lacustre au sud que vous reste caractérisé par l'absence des balisages, des dragages et l'insuffisance d'entretien des voies navigables des lacs. Joint à ces sujets par Radio Maïndéléo, le directeur général de la régie des voies fluviales, maître Daniel Loaboshi, pense pour sa part que les armateurs devaient saluer les efforts en cours des balisages, des lacs et rivières lancés depuis le 2 juillet dernier. La RVF effectue d'autres travaux de balisage sur les lacs Kivu et Tanganyika qui vont également s'étendre sur plusieurs ports, notamment ceux de Kalemie, Kabimba et d'Uvira. Trois autres ports visés par ces travaux sont ceux de Moba et Baraka, dont les derniers balisages remontent depuis 60 ans, ainsi que les ports publics de Goma, 20 ans après le sabotage des balises de la RVF par la rébellion. Dans cette même lancée, la botte de Bukavu, l'île d'Ibinja et l'îlot Changuli ont été aussi balisés, indique notre source.
Et une mission d'inspection conduite par les ministres provinciaux des Mines, Énergie et Ressources Hydrauliques, Martin Bitidjula, et son collègue des finances Bernard Amouindo, accompagné du directeur régional de la régie des eaux Ignace Ilunga Kabulo, a mis en lumière l'ampleur des dysfonctionnements du réseau d'eau des Mazigiro, Alain Kabika.
Les installations des Mazigiro, censées assurer l'approvisionnement en eau potable d'une grande partie de la population des Panzi, Nyantende, Mudusa et Muhungu, sont en effet le théâtre des multiples abus. C'est entre autres les raccordements illégaux, des bornes et fontaines hors usage et des fuites d'eau qui sont fréquentes, une situation qui entraîne des pénuries récurrentes, exposant la population à de graves risques sanitaires, souligne cette mission. Au cours de leur visite sur les lieux les samedis derniers, les membres de la délégation ont pu constater des conséquences de cette gestion calamiteuse. Sur place, de nombreux ménages se sont raccordés de manière frauduleuse au réseau, sans aucune autorisation ni contrôle. Ces raccordements sauvages engendrent une surconsommation de l'eau potable et des pertes importantes. Face à cette situation critique, le ministre provincial de l'énergie et ressources hydrauliques, le professeur Martin Bitidjula Mahimba, annonce la mise en place d'une commission d'enquête chargée d'établir un diagnostic précis de la situation et de proposer des pistes et des solutions durables. Le professeur Martin Bitidjula Mahimba.
La visite qu'on vient de faire au continent maintenant, il est vrai qu'elle est importante pour la population du Sud Kivu, puisque nous avons ces grands centres de captage d'eau tout près de Bukavu. Et suivi bien, monsieur le directeur, ça sert plus de 3000 personnes dans la ville de Bukavu. Donc nous avons bien voulu venir les visiter, comme je l'ai dit, avec son excellence, monsieur le ministre des Finances, pour que pour Chenema Mazigiro soit un centre qui va toute la population de Bukavu.
Par ailleurs, le ministre provincial des Finances, Bernard Muhindo, rassure que des études vont être menées afin de débloquer des fonds pour le financement des travaux de réparation et de modernisation de ces réseaux.
Et le Sud Kivu a notifié depuis le début de cette année plus de 13 000 cas suspects d'impox, parmi lesquels 2 400 confirmés et 52 décès. À ceci s'ajoutent plus de 10 600 guéris de cette maladie. La précision est du docteur Claude Baïziré, chargé de communication la division provinciale de la santé DPS Sud-Kivu. Dans un entretien avec Radio Maindélé, à cet effet, il appelle la population à continuer à observer les mesures barrières en respectant l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire et alimentaire, car cette maladie circule en vitesse. Pour lui, cette maladie est guérissable si la personne touchée s'est présente avant à l'hôpital, avant qu'il soit très rare. Il encourage les personnes ciblées par la campagne de vaccination à continuer à recevoir leur dose.
Il est un peu continué d'ailleurs, comme vous voyez la courbe, à la 41e semaine, la maladie semblait diminuer, mais 43e et 44e semaine, on a repris encore la courbe et est allé vers le haut encore une fois. Donc ça prouve que la maladie est encore là et nous devons faire un effort, que la communauté ne pense pas que c'est le seul prestataire de soins qui va éradiquer l'impox. C'est nous tous, les communautés doivent respecter les mesures barrières, doivent respecter les mesures de protection et nous on va soigner, mais nous continuons toujours à sensibiliser avec vous, sensibiliser nos communautés.
La division provinciale de la santé rapporte que 32 zones de santé sur les 34 que compte la province du Sud-Kivu sont touchées par cette maladie d'impox. Et avant de parler sport, à 6 heures passées de 29 minutes à Bukavu, Salomon Kizito de l'Université évangélique en Afrique, IA, est le nouveau porte-parole provincial des étudiants du Sud-Kivu. Il a été élu avec 21 voix devançant son challenger Aganze et Mourabazi de l'ULGEL qui en a obtenu 20. Cette nouvelle représentation étudiantine ressort des élections tenues hier dimanche 16 novembre 2024. Au bureau de coordination de la société civile. Salomon Kizito a indiqué qu'il va travailler beaucoup plus pour redorer l'image du collège provincial des étudiants ici au sud qui vont l'écouter.
Nous avons une obligation de redorer l'image de l'étudiant de Sud-Kivu qui a été longtemps sali par des personnes avec des casquettes politiques, des personnes qui voyaient déjà les étudiants comme leurs instruments. Et nous, nous sommes dit que non, nous sommes quand même une composante jeune de la société civile et nous devons garder ce caractère apolitique de l'étudiant. C'est-à-dire que nous devons être là pour redorer l'image de l'étudiant de Sud-Kivu.
Lors de cet exercice démocratique, la commission électorale indépendante coordonnée par les rapporteurs adjoints du bureau de coordination de la société civile, Maître Maurice Merindi, a exprimé son sentiment de satisfaction de voir enfin ces élections être organisées. Il a alors remercié tous les porte-parole des institutions supérieures et universitaires de la province du Sud-Kivu qui se sont appropriés ces cycles électoraux. Maître Maurice Merindi en parle.
Le bureau a été saisi par une déclaration signée par une trentaine de porte-parole des étudiants qui ont décidé de revenir à la société civile dans l'ancien format Collège provincial des étudiants, qui est une structure de la composante jeune de la société civile du Sud-Kivu. Et c'est dans ce sens que le bureau a fait un calendrier des élections. Et aujourd'hui, voilà, presque toutes les institutions de la province ont été représentées à ces élections. Les résultats, je peux dire que non, voilà, il y a des élections qui ont été apaisées. Et il y a un porte-parole provincial et son adjoint, ainsi que tous les comités qui sont élus aujourd'hui.
Arnold Akiza de l'ISP Bukavu a été élu comme porte-parole adjoint. Justin Kabougou de l'ISP Calais est en charge des territoires. D'autres étudiants ont fait leur entrée dans ces collèges provinciaux. C'est le cas de Laurent Luchiza de l'ULGEL qui a été élu comme secrétaire. Stéphane Omirindi de l'ISAM comme trésorier. Sophia Baraboula de l'ISPF a été votée comme chargée des genres. Le poste de chargée des relations publiques est occupé par Bienfait Chagali de l'ISC. Et enfin, Christian Bitambe Mwambeni de l'ULGEL a été élu comme chargé des communications. Il y a 6 heures passées des 31 minutes à Bukavu, même heure au stade de la Concorde en commune de Kadutu. Merci de suivre la seconde partie de cette édition du journal sur les www.radiomaindele.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maindeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Ligue nationale de football INAFOOT, 2e division, Moulazo de Walungu battu d'entrée par son pour son premier match en compétition. L'équipe de Walungu a perdu face à l'AS New qui déboutait sous le score des 3 buts en 1. Pourtant, Moulazo a été le premier à ouvrir le score avant que les hommes de Todé Farine inégalisent grâce à un somptueux but de Mamba Mukombozi. Par la suite, Moulazo a encaissé coup sur coup des buts. Score final 3 buts en 1. Dans les autres résultats, pas de but à ouvrir hier dimanche. D'abord, entre l'AS Maïka et la jeunesse sportive de Bukavu ex-Ajax, 0 buts partout. Ensuite, le même score a sanctionné le deuxième match entre Mwangaza d'Uvira et le Darin Clay Virunga de Goma. Et à Goma, l'Ose Mungano peut avoir des regrets après les nuls d'Ambi partout face à l'AS Kapako de Beni. Les Chalalilés ont même manqué un penalty dans la dernière minute des temps additionnels. et la République démocratique du Congo qui a déjà remporté ses 4 premiers matchs et se retrouve déjà qualifié pour la CAN au Maroc n'avait ni besoin des points ni de se rassurer après une série de 5 victoires sans encaisser le moindre but. En revanche, le Léopard représentait un sacré défi pour la Guinée qui avait absolument besoin d'une victoire pour se retrouver en position de force avant la dernière journée de ses éliminatoires. Et en grâce à un but de Serou Guirassy dans les arrêts des jeux, le Sili National a pu empocher 3 points sous les yeux des supporters peu nombreux à Abidjan. Une victoire logique au vu de l'ensemble du match, un but mérité pour Guirassy qui n'a cessé de peser sur la défense mise en place par Sébastien Desabre. Il aurait même pu bénéficier d'un penalty en première période après avoir été déséquilibré dans la surface de réparation dans un duel qui paraissait un peu trop rugueux à première vue. Il a finalement donné la victoire après que les siens ont tenté leur chance à 17 reprises sur l'encontre quand la RDC n'a cadré la moindre frappe. Une belle opération pour les Sili qui reprend ainsi la deuxième place qualificative de ses groupes H que la Tanzanie lui avait chippé un peu plus tôt dans la journée. La Tanzanie avait battu l'Éthiopie à Kinshasa au Stade des Martyrs sur le score des 2-0. Prochaine journée, la RDC affronte l'Éthiopie à Kinshasa et la Tanzanie dans la finale du groupe avant en découdre avec la Guinée. Le vainqueur sera qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Et enfin, l'entente des cabarets Lumière de Tchibingu a battu tout jeune débouchure au stade Rugemanizi de Chirunga sur le score des 2-1. Avec ce score, l'équipe chère à Jacques Tchirimwami termine première de son groupe pour la phase aller avec 13 points sur les 15 possibles.
La revue de presse. Radio Mindélu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Alain Kabika, la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à réviser et ou à changer la constitution et la clôture des états généraux de la justice font partie des sujets commentés par les journaux Paris le week-end à Kinshasa.
Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a confirmé sa détermination de réviser ou de changer la constitution du pays lors de son meeting à la place de la Poste à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, où il est arrivé le samedi 16 novembre 2024 dans la soirée, annonce Radio Okapi.net. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, de ne pas le faire? Il y a eu des orientations sur ce que j'avais dit à Kisangani, car ce que j'avais dit à Kisangani n'avait rien à voir avec un quelconque troisième mandat, a-t-il déclaré. Tshisekedi a dénoncé la manipulation distillée dans la population par certains leaders politiques et religieux en rapport avec sa volonté de réviser la constitution. D'un ton menaçant, poursuit RadioCapi.net, il a adressé un message à ceux qui s'opposent à cette tentative. Et je mets en garde tous ceux, politiques et autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population. Ils seront exposés à des poursuites, prévient-il. Les propositions de la commission que je mettrai en place vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus. Et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la constitution. Personne ne changera mon avis sur cette question. Félix Tshisekedi a cependant affirmé ne pas avoir l'intention de briguer un troisième mandat. Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui a mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cherche à manipuler la population, disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé du troisième mandat? S'interroge Tshisekedi. Le président de la République a également dénoncé les prises de position inquiétantes des ministres de Dieu. Les états généraux de la justice qui se sont achevés le samedi dernier à Kinshasa ont recommandé une révision de l'article 10 de la Constitution pour permettre l'adoption de la double nationalité en RDC tout en instaurant des mécanismes de déchéance pour haute trahison, titre pour sa part actualité.cd. Ces propositions traduisent une volonté de répondre aux aspirations de la diaspora congolaise tout en préservant la souveraineté nationale. Lors de la clôture des états généraux de la justice au palais du peuple à Kinshasa, Aimé Kilolo Moussamba, rapporteur général des assises, a détaillé les recommandations. L'adoption de la double nationalité vise à refléter les réalités sociopolitiques de notre pays, tout en encadrant strictement son application, a-t-il déclaré. Il a précisé que des sanctions rigoureuses seraient prévues pour éviter toute atteinte à l'intégrité de l'État. Actuellement, poursuit ses médias en ligne, la constitution congolaise consacre une nationalité unique et exclusive. Toute personne adoptant une autre nationalité perd automatiquement sa citoyenneté congolaise. Ces principes établis pour garantir une identité nationale cohérente est cependant perçu comme un frein pour la diaspora, souvent contrainte de renoncer à ses racines légales en RDC. Le président Félix Tshisekedi, présent lors de l'ouverture de ses assises, le 6 novembre dernier, avait appelé à des réformes ambitieuses pour restaurer la crédibilité de la justice congolaise. La mise en œuvre de ces recommandations sera un test clé pour son administration, conclut ce site internet d'information.
Deux communiqués avant de clôturer complètement cette édition du journal dans le cadre d'appui à la promotion de la culture, des arts et du patrimoine, tel que souhaité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, matérialisé dans notre province par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pourroussi-Sadiki. Le gouvernement provincial, à travers les ministères en charge de la culture et des arts, informe tous les artistes et acteurs culturels de la mise en place d'un cadre d'échange et de concertation des artistes et acteurs culturels du Sud Kivu, en sigle CCAAC Sud Kivu. De ce fait, le ministère porte à la connaissance des artistes et acteurs culturels qui sont appelés à formaliser leur identification et se procurer des cartes d'artistes à la division provinciale de la culture et des arts pour être reconnus en tant que tels afin d'être en ordre avec l'État et bénéficier des opportunités qui seront offertes par certains projets dans leur secteur de prédilection. Pour accompagner les CCAAC dans la campagne de sensibilisation des artistes et pour une meilleure promotion des artistes et du secteur culturel, le gouvernement provincial offre pendant une période de 30 jours à dater de la signature de ses communiqués des facilités suivantes aux artistes et opérateurs culturel du Sud Kivu, l'identification et la remise des cartes d'artistes aux 100 premiers artistes gratuitement, l'enregistrement et la remise des certificats de recensement à 50 organisations culturelles à titre gratuit. Au-delà des 100 premiers artistes et 50 premières structures enregistrées, la réduction de la moitié des frais liés à l'identification, à l'achat des cartes d'artistes, l'enregistrement et des certificats d'agrément des structures culturelles. Le ministère encourage les artistes et acteurs culturels à s'identifier et rappelle que l'identification et la reconnaissance demeurent les gages de la promotion de la culture, gages sans lesquels aucun développement n'est possible. Ainsi fait à Bukavu le 7 novembre 2024, Balemba Tidjanga Katerina signe ce communiqué. Et le département du recrutement et implantation de l'UNC, cher à l'honorable président Dr Vital Kamerhe, invite tous les membres, les femmes veuves, mamans commerçantes, femmes des policiers et les démunis et ceux qui ne sont pas de l'UNC à venir participer à une grande activité qui sera organisée à l'UNC Bukavu, à son bureau situé à la place Moulamba, le mardi 19 novembre 2024 à 15h. Ainsi fait à Bukavu, le 18 novembre 2024, Madame Claudie Mwangaza, chargée du recrutement et implantation Gra Kivu, signe ce communiqué. Six heures passées des 41 minutes à Bukavu. Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention, mais si vous nous avez pris encore des diffusions, voici les rappels des titres. Les projets de révision de la Constitution n'ont rien à voir avec le troisième mandat, confirme le chef de l'État dans un meeting tenu à Lubumbashi où il séjourne. Félix Antoine Tshisekedi précise que personne ne va l'interdire comme garant de la nation à modifier la Constitution, vous l'avez entendu dans cette édition du journal. Et pendant cet temps, du côté de l'opposition, l'on ne veut pas l'entendre de cette oreille. Le président Tshisekedi veut modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, précise le président d'envol d'Élise Sanga. Et en sport, éliminatoire de la CAN Maroc 2025, les Léopards enregistrent leur première défaite de la compétition face à la Guinée avant d'affronter l'Éthiopie pour clôturer ces éliminatoires, alors que la Guinée en déplacement jouera la finale du groupe à Dar es Salaam face à la Tanzanie. La mise en onde était celle d'Alain Zard, à la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur le www.radiomaïndéléo.info. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.